moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment de la vitesse. Et à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Sport Événement, et ça me donnait trop envie de faire de la descente. Je voulais faire de la descente, je voulais faire de la luge, de la street luge. En fait, c'est une luge de route et qui peut aller à 130 km/h. Du coup, je voulais faire ça, et mon père étant soudeur, je m'étais dit, ouais, il va peut-être pouvoir m'en faire une. Et il a un peu... Ma mère était un peu réticente sur ce point-là. Du coup, je me suis mis au skate et au longboard après, pour passer ensuite à la luge, quoi. Les gens, souvent, ils nous prennent pour des fous parce que ils pensent dans leur tête qu'on n'a pas de frein, mais en fait, soit on pose le pied par terre et ça freine comme ça, ou soit on part en dérapage et là, on, dans les virages, on peut rentrer dans les virages facilement à 90, 100 km/h. Si j'ai un mois, le maximum que j'ai pu faire, c'est 2000 km. Je sais pas, j'ai par habitude de tomber aussi sur les championnats, mais après, souvent, j'ai toujours les palais. Les palais dans les mains, du coup, je mets les mains en premier, ça permet de... Ça, et je reste sur la pointe des pieds, comme ça évite d'avoir trop de frottements sur le corps.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre une heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Romain Bessière. Bonjour Romain.
Salut.
Merci de prendre ce temps Romain. Ce qui est drôle, c'est que tu vois, je pense que j'ai vu ton exploit de skateboard avant de connaître qui était la personne derrière. Donc je me suis dit, lui il faut aller le chercher, il faut aller comprendre qui c'est. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas...
Il faut dans le catalogue.
Ouais, exactement. Est-ce que tu pourrais, Romain, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter s'il te plaît.
Alors je suis Romain Bessière, j'ai 34 ans. Je traverse tous les pays du monde que je peux depuis 2004. Et en fait, voilà, je prends mon sac à dos, 15 kilos, l'appareil photo, le drone, le pied, 5 affaires pour des affaires pour 5 jours et puis voilà, basta. Je prends un vol, j'arrive sur place et je traverse le pays.
C'est excellent. 2004, ça fait 16 ans.
Mmh.
Tu commences très tôt, du coup, tu commences, je fais mes calculs, 18 ans, c'est ça? Ah ouais. Alors, quand tu dis tu traverses le pays, je pense que beaucoup de gens n'ont pas forcément saisi, tu traverses le pays de quelle manière?
En skate, un longboard, c'est un grand skate d'un mètre avec des roues de 70-80 cm, et puis ça permet d'être plus stable, plus rapide, et c'est plus agréable du fait qu'il y ait plus de place sur la planche.
Donc, le longboard, pour ceux qui ne voient pas trop, hein, toujours, c'est un très long skateboard, effectivement. Comment tu le balades? C'est quoi? C'est dans l'avion? Tu l'as avec toi? Ou ça, il passe en soute?
Je le mets en soute, en carton. Et puis,
tu t'emmènes combien de roulements ou de roues de rechange quand tu traverses un pays?
J'ai une paire de roulements, donc 8 roulements en stock, dans une petite trousse avec les outils. Tout ce que je pourrais avoir besoin au cas où, quelques vis de rechange et puis des petites gommes qui font que le skate est plus stable ou pas. Et puis voilà, et une paire de roues en plus, selon les duretés, selon si je vais en Irlande, je sais qu'il va y avoir de la pluie, du coup j'emmène un jeu fait plus adapté pour la pluie.
Ah, finalement, tu deviens un peu ton pilote de Formule 1 tout seul, quoi. Il faut que tu fasses attention aux roues.
Ça m'a mis au stand.
C'est clair. Et alors, comment ça commence, cette passion pour le longboard?
Ah, c'est par étapes progressives. Déjà, quand j'étais gosse, j'allais avec mes parents faire des campings et je voyais tout le temps des Hollandais. Parce qu'à l'époque, en France, ça se faisait pas trop, les voyages à vélo. Et du coup, je voyais tout le temps des Hollandais voyager comme ça, à vélo, qui prenaient le temps de voyager, quoi. Et donc, ça me donnait envie. Alors, quand j'étais gosse, je disais, ouais, j'aimerais bien faire ça et tout. Et après, ensuite, à 3 ans, j'avais demandé mon premier skate. Je l'ai eu à 4 ans pour Noël. Le Père Noël était sympa. Ma mère était un peu moins contente, mais moins rassurée. Et, après, j'ai vraiment commencé à 10 ans. L'envie de faire du skate après une classe de neige à l'école.
Et attends, quand tu parles de skate, t'étais tout de suite sur du longboard ou t'as d'abord commencé sur le skate classique qu'on a tous connu dans les halfpipe, etc. Là.
En fait, j'habite à la campagne, alors c'est un peu mort le halfpipe ou quoi que ce soit avec des modules. Du coup, moi ce que je voulais faire, c'est vraiment de la vitesse. Et à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Sport Événement et ça me donnait trop envie de faire de la descente. Je voulais faire de la descente, je voulais faire de la luge, de la street luge. En fait, c'est une luge de route et qui peut aller à 130 km/h. Du coup, je voulais faire ça. Et mon père étant soudeur, je m'étais dit, ouais, il va peut-être pouvoir m'en faire une. Et il a un peu. Ma mère était un peu réticente sur ce point-là. Du coup, je me suis mis au skate et au longboard après pour passer ensuite à la luge, quoi.
Et alors, quand tu dis descente, est-ce que je visualise correctement si on parle de, par exemple, une roule de montagne un peu sinueuse et le but, c'est d'être le plus rapide possible sur cette...
C'est ça. Alors, soit le plus rapide quand c'est en course, soit se faire plaisir et descendre avec style ou avec des dérapages. On essaie d'être... c'est libre, quoi.
Et tu dérapes, j'imagine ?
Oui, on dérape pour se freiner.
Ouais. Donc,
les gens souvent ils nous prennent pour des fous parce que ils pensent dans leur tête qu'on n'a pas de frein, mais en fait soit on pose le pied par terre et ça freine comme ça, ou soit on part en dérapage et là dans les virages on peut entrer dans les virages facilement à 90, 100 km/h.
Ah la vache. J'avais vu des vidéos dans lesquelles les gars se penchaient carrément, ils avaient une espèce de coque dans la paume.
Ouais, on a des palets de Teflon.
D'accord.
Ça permet de poser la main comme appui, comme les motards. En fait, eux, ce qu'ils ont sur les genoux, bah, nous, on les a dans les mains et ça nous sert d'appui dans les virages.
Ok. Oh là là. Et alors, tu fais ça avec 15 kilos dans le dos ?
Ouais.
Mais autant te dire qu'en montée, ça va. Mais en descente, ça va, je veux dire. Mais en montée,
En descente, c'est super. En fait, tout le monde pense que c'est super simple en descente. En fait, c'est limite le plus compliqué. En fait, il faut gérer sa vitesse, son poids.
Ouais.
Quand,
ouais.
Parce que là, ça me fait quasiment plus de 100 kilos à freiner. Et comme je freine, du coup, quand j'ai mon sac à dos, je peux pas partir en dérapage. Et le sac à dos m'empêchant de certains mouvements. Du coup, je freine avec un pied, le frottement du pied sur le sol.
Ok. Donc, tu as des chaussures que tu consommes en quantité.
Je suis un consommateur de chaussures.
C'est quoi la paire de chaussures de référence quand tu fais ce genre de sport ?
Bah, je dirais pas. Des chaussures de skate, hein, des chaussures plates. Je vais pas dire de marque.
Non, pas de marque, mais ok, chaussures de skate plates. Et donc, t'en fais quoi ? T'en fais une paire par voyage ? Comment ça se passe ?
Ouais. Ça dépend comment je roule, mais ça dépend des voyages. Mais genre Sri Lanka, j'ai fait toute une paire de chaussures à peu près. Il y avait beaucoup, beaucoup de descentes. Et puis, il y a certaines descentes, je les ai faites à pied parce que j'avais plus de chaussures. J'avais quoi, même pas un millimètre sur la semaine.
Aïe, 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 aïe. Et attends, quand tu dis tu fais les descentes, je sais pas si tu fais la partie montée aussi, ou tu montes en bus et tu descends en skate.
Non, je monte tout soit en skate. Après, dans les pays comme les pays pauvres, genre Sri Lanka et autres, soit je m'accroche au tuk-tuk, ou il y a moyen de monter plus facilement et plus rapidement.
Et tu balades dans les 15 kilos ton eau aussi?
Comment ?
Tu balades dans les 15 kilos, ton eau aussi ?
Ouais, ouais. Là, les derniers voyages, j'avais un thermos qui me permet d'avoir de l'eau fraîche.
Donc, tu te balades et tu m'as dit 5 jours. Pourquoi 5 jours et pas un peu plus ou un peu moins ?
Bah, parce que c'est à peu près... En fait, un peu moins, il faut trouver une machine à laver ou faut nettoyer le soir dans sa chambre tout son linge ou... Ça dépend comment on est hébergé. 5 jours, ça permet d'avoir la fringue sur soi, plus 4 vêtements à laver, quoi. 4 en stock.
Ok. Et quand tu dis que tu balades du coup ton matériel, on peut faire une parenthèse rapidement sur... tu parlais de ton drone, etc. C'est quoi les matériels que tu emmènes du coup typiquement ?
Bah, j'ai un petit drone qui me suit, qui est pas mal. qui filment en 4K ou maintenant ils font des choses pas mal, qui sont assez compactes. Je sais pas, ça prend la place de 15 cm sur 10. Et puis j'ai mon appareil photo, j'ai un réflexe. Là, j'aimerais bien changer pour avoir un hybride pour pouvoir mieux filmer et puis partager mieux mon truc. Et sinon, bah, les affaires pour 5 jours. De quoi réparer mes roues, réparer mon matériel.
T'as pas de GoPro par exemple, tu prends pas de caméra?
J'ai un pied d'appareil photo, un Manfrotto, vraiment bien pour pouvoir faire des prises de vue. En fait, je pose mon appareil photo, je prends la prise de vue et je reviens pour reprendre l'appareil.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est l'avantage du drone, c'est qu'effectivement, tu fais qu'une fois la descente parce qu'il te suit tout du long. Si tu dois poser un pied, effectivement, faut que tu te passes devant.
Et encore en descente, il me suivrait pas.
C'est vrai ?
À 30 km/h, il abandonne.
Ah merde. Et même en survolant, je vais dire une bêtise, mais si les routes sont sinueuses et que lui il fait
s'il y a des épingles, peut-être qu'il, ouais, je pense qu'il me suivrait.
Tu vois, si tu
mais bon, il est perdu dès qu'il voit dès que je passe sous un arbre, il est perdu. Alors.
Ah oui.
C'est pas. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Maintenant, je pense qu'ils se sont bien améliorés sur les obstacles.
Et alors, c'est quoi l'objectif, là, quand tu parles de tous les pays? T'en es à combien, déjà?
27. Après, je compte pas les... Genre les Monaco, les 30 km que j'ai fait au Canada. Voilà, tout ce qui est principauté et tout, je compte pas, mais ouais, 27.
C'est génial. Est-ce que... Alors, attends, je reviens sur un point, parce que du coup, on allait un peu vite sur les voyages, mais tu commences en 2004, t'as 18 ans.
Ouais.
Tu fais ça en parallèle de tes études ou est-ce que tu as trouvé des sponsors qui t'accompagnent sur le sujet?
Je sortais d'apprentissage, je suis prothésiste dentaire.
D'accord.
Du coup, j'ai commencé direct. J'ai commencé mon apprentissage super tôt et du coup, je suis parti direct. Dès que j'ai fini mon apprentissage, j'avais besoin d'un grand bol d'air. Du coup, j'ai pris la route, quoi.
Parce que si tu fais 27 pays sur 16 ans, c'est des voyages que tu fais plutôt en vacances, du coup?
Ouais, je fais ça pendant mes vacances, sur mes 5 semaines. J'ai pas plus. Souvent, on me pose la question, mais tu travailles pas, c'est ton métier. Non, c'est pas mon métier, c'est juste mes vacances. Du coup,
C'est impressionnant, parce que ça veut dire que si tu prends, tu m'as dit 5 jours sur place, donc globalement, ça fait une semaine, on est d'accord.
Ouais.
Ça te met combien de temps à préparer ce genre de voyage?
Des fois, quelques jours. Ça m'est arrivé de dire bah tiens la semaine prochaine j'ai des vacances, je pars. Des fois la journée d'avant je sais même pas que je partais. C'est aussi arrivé. Mais sinon des fois genre le Japon, des trucs comme ça, faut acheter le billet d'avion en avance. Il y a pas mal de choses à préparer. Là j'ai un futur voyage que j'ai préparé, que j'aimerais bien faire. Pour l'instant c'est au stade de rêve et ça va me mettre au moins 2 ans à faire.
Ah oui, 2 ans, pourquoi?
Parce qu'en fait, je vais traverser le lac Baïkal sur des patins, sur un skate à patins.
Et du coup, le lac gelé?
Oui.
Oui. Ah la vache. Et ça se fait du coup en hiver. J'imagine qu'il faut une autorisation de, je sais pas, un visa, un truc.
Pour l'instant, je me suis rien... Je me suis renseigné de pas grand-chose.
C'est génial.
J'ai cette envie-là là, au fond de ma tête depuis quelques temps.
Attends, si tu mets un skate avec des patins, j'ai déjà vu des trucs du style du kite avec du ski ou alors une planche à voile mais avec une planche avec patins. Je pense qu'on parle à peu près du même concept, j'imagine. Mais comment tu pousses du coup toi un skate? T'as une chaussure avec des crampons ou...
Faut que je me renseigne. Je pensais à des chaussures de curling ou... Il y a des fois ils font des chaussures avec des peaux de phoque apparemment. Donc à voir.
Ah, ça pourrait être drôle ça, la chaussure qui glisse pas.
À voir s'il y a une compagnie qui veut bien me sponsoriser là-dessus, justement pour les vêtements et tout.
Et chaussures avec peaux de phoque, c'est pas mal, parce que tu pourrais même glisser dans le sens de... Ah mais du coup pour freiner c'est moins...
Là j'ai pas besoin de freiner, ce sera plat. Donc...
Et alors traverser du lac Baïkal dans quel sens? Parce que globalement on est d'accord que c'est quelque chose qui est assez long, mais pas
très... Sur la longueur, ouais.
Sur la longueur, on est d'accord.
Je crois il y a 687 km. Tout ça.
Ah tiens, on n'a pas parlé de distance d'ailleurs. Sur les voyages en général, tu parcours quelle distance? Tu as mesuré un peu?
Si j'ai un mois, le maximum que j'ai pu faire c'est 2000 km.
Ah oui.
Mais c'était trop, j'ai pas assez profité. Il y a des trucs que je suis passé à côté parce que j'avais pas assez de temps. Mais l'idéal, c'est 1500 km.
Ah, excusez-moi, je m'attendais pas du tout à 1500, je m'attendais à 300. Ok, donc l'idéal, c'est 1500 km sur lesquels.
Sur un mois.
Sur un mois, d'accord. Ok. Et quand tu fais les 5 jours en l'occurrence?
Bon, allez, sur les 5 jours, je peux faire 300-400 km.
Oui.
En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de prendre l'avion, d'arriver sur place. Et souvent, j'essaie de rester une journée dans la ville de départ pour découvrir. Puis ça me permet de me rendre compte comment les gens circulent. Et pour pas attaquer direct. Et genre, quand je suis arrivé en Inde, j'étais un peu perdu. Ils ont un peu une façon différente de.
J'essaie de me projeter avec toi, mais si tu fais ça en descente et en montée, j'ai compris, entre le tuk-tuk et la descente, ça je comprends. Sur le plat ou sur la distance en tout cas que tu dois faire, tu pousses avec ton pied tout le temps, tout du long?
Ah, ouais. Avec qu'un seul pied, alors j'ai une jambe plus grosse que l'autre.
C'est vrai?
Ouais.
Tu pousses d'un pied, tu mets le deuxième et donc tu fais ça pendant des kilomètres et des kilomètres avec ton sac sur le dos.
Ouais.
Ah la vache. Et t'as toujours fait ça seul?
J'ai fait ça avec mon ex il y a quelques années.
Ouais.
Là, je vais peut-être en refaire un avec un copain.
D'accord.
Et puis, on est en train de voir ça peut-être pour mars, faire un petit road trip. Et puis, au mois d'avril, j'aimerais bien repartir seul et faire un truc de 3 semaines.
Et alors, quand on parle de sensations fortes, typiquement, comment tu choisis tes pays? Parce que tu en as fait, tu m'as dit 27, on parle du lac Baïkal dans quelques années, j'espère. Comment tu choisis ces destinations? Est-ce que c'est au fur et à mesure ce qui te passe par la tête ou...
Ouais, des fois, c'est un film, ou des fois, c'est... Genre, le lac Baïkal, je sais que j'avais vu les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Du coup, ça me donnait envie. Et puis, comme j'adore la photographie, j'aimerais bien faire de belles photos. Souvent, je choisis mes voyages par rapport aux photos, par rapport. J'adore faire des portraits, mais j'adore la nature.
Et tu reviens, tu m'as dit, avec donc des rushs de vidéos et des photos. En moyenne, ça fait combien si on devait estimer ça en volume?
En photo?
Ouais, tu fais un reportage complet ou tu fais plutôt de la photo pour toi?
Bah, plus ça va, moins je fais de photos. En quantité, hein, je sais ce que je veux, je connais mon appareil. Du coup, genre, le dernier voyage, j'ai fait 300 photos sur un mois. Ce que c'est assez.
Parce que sur les 15 kilos, enfin, le réflexe, il fait largement 600-800 grammes, non, quand même?
Ouais, là, en tout, j'ai quasiment 6 kilos pour les prises de vue entre le drone, le pied, le réflexe, les objectifs.
Ah, c'est drôle, ça veut dire que du coup, tu passes quand même beaucoup, beaucoup de ton temps à suer pour faire une belle photo.
C'est ça. Okay. Et des fois, je passe une heure ou deux pour prendre une photo et je me retrouve en retard sur mon... Bah, pas mon planning, parce que j'ai pas de planning, je sais jamais où je dors le soir, mais il y a des fois, je fais, ah, putain, j'ai trop traîné, quoi.
C'est quoi le regard des autres qu'on te porte quand tu balades comme ça? Comment t'es reçu, par exemple?
Ça dépend des pays. Genre, la Suède, c'était assez, assez distant, et puis ils ont l'habitude des gens qui partent dans ce genre de road trip, quoi. Même si c'est pas en skate, ils le font en vélo, ils le font, puis ils ont pas tendance à se mettre dans la vie des gens. Ils sont assez distants. Ils laissent la liberté, quoi. Ça, j'ai adoré. Après, des pays comme le Sénégal, j'avais 20 gosses qui couraient derrière moi pour parler au Toubab, quoi. Ouais, ça dépend des pays.
Tu te fais accueillir de temps en temps chez l'habitant ou t'es plutôt à l'hôtel? Je sais pas comment ça se passe.
Ouais, j'essaie de dormir chez les gens, c'est mieux. Après, en Suède, je dormais vraiment quasiment tous les soirs sous ma tente. En fait, en Suède et dans les pays, les trois pays, Norvège, Danemark, Finlande et Suède, on peut poser notre tente n'importe où, même chez les gens. du moment qu'on n'est pas trop proche de leur maison. Du coup, il y a une propriété privée, on peut quand même mettre la tente à l'intérieur.
Tu t'es pas gêné?
Oui, j'ai fait pas mal de trucs comme ça. Mais sinon, ouais, j'essaie de dormir chez les gens. Et il y a des fois des belles rencontres. Il y a même des fois, c'est des gens qui me croisent sur le bord de la route. Et puis, ils attendent que je passe devant leur maison et puis ils me demandent de dormir à la maison.
Ah yes. C'est quoi la plus... Alors, on parlera de la plus jolie descente, mais c'est quoi la plus belle rencontre que tu as faite typiquement comme ça?
Il y en a eu plein. Mais... J'ai eu une famille Miyako au Japon. Genre, elle m'a... J'étais tout amoché, je suis tombé au Japon. Et j'avais l'œil au beurre noir, j'étais ouvert, j'avais 9 points de suture sur l'arcade. Du coup, je ressemblais vraiment à rien. J'avais le bras arraché, j'avais... Ouais, bref, je faisais pitié, quoi. Et du coup, je demandais aux gens pour loger le moins cher possible. Et sur ma route, il y a un monsieur, il me fait « Bah, attendez, je vais téléphoner aux hôtels pour savoir lequel est le moins cher et lequel est... » Puis au final, il m'en trouve un et puis il me fait « Bah, si tu veux, je te guide pour t'y emmener, quoi. » Puis il me fait « Mais si ça se trouve, ça t'arrange de dormir à la maison. Je t'ai pas demandé, mais si ça se trouve, ça t'arrange. Et tu passes la soirée avec nous. » Et en fait, il faisait une fête entre voisins, barbecue et tout. Et j'ai passé la soirée avec eux. J'ai eu une des filles m'a fait un solo de piano pour m'accueillir. J'ai eu sur mon livre, parce que j'emmène aussi un livre d'or. Du coup, les gens, ils laissent des messages. Et là, sur le livre d'or, j'ai eu des dessins, j'ai eu des cocottes en papier, je sais plus comment ça s'appelle, les origami.
Origami, ouais.
Et j'ai eu plein de trucs comme ça. Mais des gens aussi que je croise, quand je suis arrivé à Tokyo, j'ai croisé quelqu'un. En fait, un Européen, quand il arrive à Tokyo, des fois, toute la signalisation est en japonais. Ça a peut-être évolué depuis, parce que c'était en 2009. Et du coup, les Japonais, entre eux, ils parlent et ils vous guident au fur et à mesure. En fait, dès qu'ils peuvent plus vous suivre, bah, ils demandent à quelqu'un d'autre de vous accompagner sur la station suivante, et ainsi de suite. Et du coup, la personne me fait « Je parle français, si t'as le moindre souci, bah, tu m'appelles et tout. » Et là, j'avais besoin d'une traduction pour l'hôpital quand je suis tombé au Japon. Et en fait, il m'a accueilli après à l'arrivée sur Tokyo, sur mon passage, quoi. Et là, j'ai encore des nouvelles de tous ces gens-là.
Et bah, ton livre du coup d'or, il doit être sacrément conséquent, et surtout il doit avoir vécu, non? C'est un peu le livre...
J'ai un livre pour chaque voyage.
Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est génial.
On sait jamais ce qui peut arriver, j'aimerais pas en perdre un sur la route, du coup à chaque fois j'en prends un nouveau.
Et il est fini à chaque fois? Tu le finis à chaque fois, le livre?
Moi, je le complète avec des photos, mais je laisse tout le temps des pages blanches pour laisser des photos entre chaque commentaire.
C'est canon. Du coup, t'as une bibliothèque avec des 27 bouquins.
C'est ça.
Et t'avais déjà eu cette idée-là dès le début? Enfin, tu vois, je
me pose la question. Non, j'ai attendu peut-être quatrième ou cinquième voyage. Pour réunir les photos de vacances. En fait, les premiers voyages, je faisais comme un peu tout le monde. Je prenais 2000 photos et je les regardais jamais parce qu'il y en avait trop, quoi. Et puis ça saoulait les gens de regarder 2000 photos, souvent les mêmes, quoi. Là, je préfère en avoir 25 dans un livre d'heures et au moins ça fait plaisir aux gens de regarder, quoi.
Bah, la sélection fera toujours la différence, c'est sûr. Mais tu vois, je me pose la question, tu dis que tu commences en 2004, voyager en tant que Romain 18 ans et voyager en tant que Romain 34 ans, je pense que c'est pas tout à fait la même chose.
Non, ça commence à... Bah, surtout les dernières années, je trouvais que ça changeait. Ça...
Qu'est-ce qui change selon toi?
Au tout début, c'était plus de... Ils voient un gamin sur le bord de la route, ils font « Ouais, bah, dors à la maison et tout. » Après, il y a toujours le skate, mais ouais, il y a peut-être un peu plus de distance parce que j'ai pris de l'âge et puis ils disent « Ouais, il y a peut-être pas besoin autant d'aide. » Et puis je fais 30 kilos de plus, quoi, presque.
Ouais, mais toi, t'as par exemple, enfin, ceux qui nous écoutent ne te voient pas, mais t'es pas barbu. Est-ce que peut-être c'est un avantage aussi de pas avoir la barbe et du coup de peut-être passer pour aussi ou plus jeune en tout cas que ce que tu l'étais déjà à l'époque.
Au niveau du visage, je suis imberbe, mais j'ai quasiment, j'ai pas grand-chose. Mais là, je viens de raser parce que je repasse chez le coiffeur après. Mais ouais, je fais assez jeune quand même de visage, hein, je pense.
Non, c'est pas une remarque, c'est plus de dire est-ce que le fait que, par exemple, tu sois imberbe quand tu te balades facilite peut-être justement les gens à garder cette image du jeune, pas 18 ans non plus, mais que tu es et donc de pouvoir t'aider quoi.
Ouais, ça aide, je pense. Je pense que ça aide.
Alors, on n'a pas du tout parlé de ça, mais alors ça m'intrigue beaucoup. Évidemment, il y a des chutes. Si tu descends à toute vitesse, tu finis par tomber. Tu parlais de cette chute au Japon, il y en a eu d'autres, j'imagine.
Ouais.
Quand tu es tout seul, que tu te casses la figure vraiment comme il faut, en plus à 130 à l'heure, ça doit être quelque chose.
Non, 130, ça enluge. Mais
Ah oui, pardon, ok.
Là, je suis plus à 80 maxi. Maxi,
oui, bah excuse-moi, c'est quand même très rapide quoi.
Oui, ça peut être fatal.
Et alors, comment tu réagis? C'est quoi les réflexes? Tu te mets en boule, tu roules? C'est quoi le.
Moi, je sais pas, j'ai pas l'habitude de tomber aussi sur les championnats. Mais après, souvent, j'ai toujours les palets. Les palets dans les mains, du coup, je mets les mains en premier, ça permet de. Ça, et je reste sur la pointe des pieds, comme ça évite d'avoir trop de frottements sur le corps. Mais ouais, j'essaie.
Mais là, par exemple.
Non, je porte un casque depuis le Japon.
Depuis le Japon, tu portes un casque? Avant, tu portais pas de casque?
Je portais pas de casque. Et après, maintenant, j'ai aussi du matos carrément plus. Le matériel a vraiment évolué depuis 10 ans, quoi. Depuis 15 ans. Là, j'ai du matériel, je suis desserré. Je suis vraiment desserré comme pour rouler en ville. Et je suis à 80 km/h tout en étant desserré vraiment. Ce qui n'était pas possible il y a 15 ans.
Desserré pour les amateurs, ça veut dire quoi?
Parce qu'en fait, il y a une vis avec des parties en caoutchouc. Et plus on les serre, plus ça rend stable le skate en général.
Ouais.
Mais en serrant, ça tourne de moins en moins. Du coup, là, on a des géométries de trucks, ce qui tient les roues, ce qui accroche les roues à la planche. Et ils sont taillés dans la masse, et ce qui les rend vraiment plus stables et plus précis. Donc là, je suis à 80, la planche, elle bouge même pas. Elle bouge pas, quoi. Je peux poser mon pied tranquillement sur le sol, à pas me faire de trucs bizarres et partir dans le décor.
Ouais, vas-y, oui, ok.
Ce qu'on appelle les wobbles, c'est à peu près ce que les motards ils ont des fois, avec la roue avant qui guidonne.
Ok, parce que du coup tu desserres pour stabiliser ou à l'inverse tu serres pour stabiliser?
Je serre pour stabiliser.
Ok.
Mais là sur mes trucks, j'y touche quasiment jamais maintenant. Il n'y a même plus besoin.
Parce que je me dis juste, si tu desserres. La vis à un moment donné elle s'enlève. Comment ça se passe?
Ouais, mais là ils sont faits pour être à fleur et puis à fleur du pas de vis et puis ça passe.
Et alors du coup cette grosse chute au Japon, il y en a eu d'autres des chutes comme ça?
En Espagne j'ai bien pris cher, mais après il y avait aussi un manque d'expérience et après je dis pas que je vais pas jamais retomber. Il y a toujours des gens qui font des fois ça m'est arrivé d'avoir des voitures, j'étais au Sri Lanka, je descendais et ça descendait vraiment pas mal, j'étais à un col à 2000 mètres facilement d'altitude, j'étais en train de descendre tranquillement, je carvais, je sais, donc je faisais des zigzags pour freiner, pour me ralentir, et il y a une voiture qui se met à côté de moi, qui me serre, et puis elle fait « Ah mais vous êtes dangereux et tout, vous rendez pas compte ce qui vous attend ». Et je lui fais non mais vas-y file parce que là c'est là que c'est dangereux parce que j'avais plus d'espace à côté de moi, je pouvais plus carver, je pouvais plus, s'il y avait un moindre trou dans la route j'étais bloqué contre la voiture. Donc, c'est plus ça qui est des fois qui rend dangereux le truc.
Bah justement, j'ai pas pensé à ça, mais en fait, il faut quand même que tu choisisses tes lieux de descente en fonction de la qualité de la route, non?
Bah, je sais jamais la route que je vais prendre, donc c'est aussi pour ça que c'est dangereux. Ça, je peux arriver sur une route nickel, je suis à 70, et d'un seul coup il y a des travaux et faut que je passe de 70 à 0 sur 200 mètres, quoi.
Les fameux travaux. Bon.
Des travaux ou des plaques ou des fois des vieilles tranchées avec remplies de gravier, et là faut que je freine, ou des fois j'ai pas le temps de freiner, mais faut que je ralentisse pour alléger un peu la planche en passant.
Et la
Ou
planche a jamais
c'est
cédé.
arrivé aussi des fois des rivières qui traversent un peu la route, et ça on le passe pas à 70, quoi.
La grande gerbe d'eau. Parce que ça t'est déjà arrivé de devoir faire un, je sais pas, un freinage en catastrophe ou j'imagine ouais,
Très régulièrement.
régulièrement. Non, ma
Genre au
question.
Sri Lanka, ça m'arrivait de m'accrocher à des voitures ou autre. Du coup, ça monte encore plus vite en vitesse. Et il y a très régulièrement des gros rails de chemin de fer, des passages à niveau et tout. Et là, faut freiner d'urgence. Ou il y a des fois, il y a des animaux un peu exotiques. Genre des gros varans. Une fois, ça m'est arrivé de freiner en urgence pour un varan d'1,50 m pour le laisser passer.
Ouais, c'est vrai que certains pays ont la culture de faire balader les troupeaux d'animaux le long de la route, si ce n'est sur la route.
Des fois, des vaches qui sont... Mais même en Suisse, hein, genre, les vaches, elles sont... Ou même dans les Pyrénées, les animaux sont un peu laissés à eux-mêmes. Ça arrive régulièrement de les retrouver sur la route.
Je trouve ça drôle, mais c'est vrai que du coup, si tu roules sur du béton, t'as jamais eu de passage avec. Alors, tu parlais de passage de niveau, ça c'est intéressant. Parce que du coup, ça passe pas du tout. Les roues sont pas assez grosses pour passer par-dessus le passage à niveau.
Vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Après, il y a des fois, il y a d'autres. Genre au Japon, ça m'arrivait régulièrement parce qu'en fait, les trottoirs sont super larges pour rouler sur le trottoir. Ils sont adaptés pour les vélos et tout. Et des fois, je faisais les descentes comme ça sur ces trottoirs-là, et d'un seul coup, ils se terminent. Du coup, je me retrouvais à sauter avec ma planche les trottoirs à 70 km/h.
C'est vrai que ça c'est parce que le passage avec des par exemple je pense à des pavés ça t'est pas arrivé d'avoir des pavés ou enfin tu vois un passage comme ça.
Si, après les roues actuelles que j'ai, elles font 80 mm, donc ça passe vraiment partout quasiment. Il n'y a pas trop de soucis.
Bon, et alors cette planche là du coup elle a jamais cédé, elle a jamais cassé. Tu l'as fait tout seul ou tu l'as acheté?
Non, bah là des fois j'ai des petits fabricants qui me proposent des planches faites sur mesure. Là j'ai une planche un peu plus commune mais qui est adaptée à la longue distance. Parce que maintenant il y a des marques qui font des planches vraiment adaptées pour la longue distance. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Quand j'ai commencé, ça n'existait même pas la longue distance.
Il n'y a pas une marque australienne d'ailleurs qui est très connue pour ça, parce que moi j'ai souvenir d'avoir acheté des longboards là-bas.
Non, il y a plein de marques tous les pays. Là, c'est une marque suisse que j'ai actuellement.
Si on ouvre ton garage, il y a combien de skateboards?
Là, j'ai des skates partout chez moi. J'en ai. J'ai des. Comment J'ai le mari d'une collègue qui m'a fait des racks où j'en ai 11 par rack et j'en ai accroché au mur et tout.
T'en as 11 par rack, plusieurs racks et accrochés au mur.
Ouais, là j'en ai 36 longboard,
Ok,
quasiment toutes montées.
d'accord. Du coup, t'invites des copains, c'est parti quoi. Tu sais comment les occuper quoi.
Non, parce que je les prête pas. À part certains modèles, mais il y en a plein qui sont collecteurs.
Et alors, en quoi ils sont collecteurs, ça m'intrigue.
Bah, des marques qui ont arrêté, des fois des modèles uniques. Ou certaines que j'ai des. Bah, je suis un peu matérialiste, du coup j'ai des planches qu'on du vécu et avec lesquelles je veux pas me séparer. Souvent c'est régulièrement qu'on me demande t'aurais pas une planche à vendre.
Donc, et t'en as même pas une seule des 36 dont tu veux te séparer?
J'en avais une il y a quelques mois, je l'ai vendue, mais c'est vraiment rare. Mais je l'avais en double aussi.
C'est drôle. Tu vis où là, Romain, aujourd'hui?
Là, à Caen.
T'es à Caen? Et alors, est-ce que dans le coin, tu vas être le genre de personne qui trépigne à la fin de sa journée pour aller faire un tour de skate ou pas?
Là, je prends un peu sur moi-même par rapport au... Mais c'était plus le cas il y a quelques années, un peu moins maintenant. Mais ouais, à une époque, je vivais skate, je mangeais skate et c'était un peu trop, quoi. J'étais, pour mes amis, j'étais un gros relou. Mais là, je suis un peu moins.
Et alors, aujourd'hui, du coup, ton métier, c'est quoi, là, au quotidien?
Je suis prothésiste dentaire.
Toujours. Et donc, est-ce que tes patients savent ce que tu fais à côté ou pas?
Non, parce qu'on n'a pas contact avec le patient. Donc, okay. Nous, le prothésiste n'a pas quasiment jamais affaire avec le patient. C'est surtout le dentiste. Donc, pour nous, c'est le dentiste est un client et le patient ne le voit jamais.
Bon. Et alors, typiquement, si on rencontre, je sais pas, un petit jeune qui a 14-15 ans, qui... Bon, déjà, c'est plus un petit jeune, mais bref. S'il veut partir un peu comme toi, c'est quoi, comment tu lui conseillerais de commencer? C'est quoi les étapes?
Pousser avec les deux jambes. Ça lui évitera d'avoir une plus grosse jambe que l'autre. Après, une bonne planche. Trouver une bonne planche qui soit stable, qui lui convienne. Et puis, je sais pas trop comment dire. Se faire plaisir. Des fois, il y a des jeunes, il y en a certains longboarders, ils veulent être connus avant de se faire plaisir.
C'est avant tout se faire plaisir.
Ouais, ils veulent déjà des sponsors avant de savoir réellement rouler.
Et alors, du coup, typiquement, tu parles de rouler et de sensations fortes et se faire plaisir. C'est quoi la plus belle descente que tu as faite?
Ouais, je pense au Japon, j'en ai fait des. Celle des déjà où je me suis vautré, hein, au Japon. C'était écrit en gros, faites attention, il y avait des gros bacs en gravier pour comment ça s'appelle? Pour les poids lourds au cas où ils arriveraient pas à freiner. Du coup, j'ai quand même hésité avant de partir, surtout que j'avais pas spécialement de matos à l'époque. Et je me suis lancé, j'étais un peu trop ambitieux. Après, au Sri Lanka, franchement, je me suis tapé vraiment des grosses, grosses descentes. Où je me suis vraiment fait plaisir et j'arrivais dans les villages, des fois j'étais en grosse pointe de vitesse et les gens, ils applaudissaient dans les villages.
Parce qu'ils t'avaient vu venir ou parce que tu leur passes devant à toute vitesse?
Des fois ils m'ont vu avant en voiture et puis ils s'arrêtent 2 kilomètres plus loin pour me voir passer.
Ah, c'est excellent.
Il y a des fois, ouais, moi je suis arrivé dans un village, mais la descente a été vraiment immense et vraiment pentue. Et ça faisait un énorme virage avec plein de magasins tout dans le virage. Et je suis arrivé vraiment vraiment vite dans le truc. Et il y avait des passages piétons avec des multitudes de couches de peinture sur le passage piéton et puis un peu craquelé et glissant, quoi. Et je suis arrivé sur le passage piéton, la planche est mise à glisser. Et les gens, ils ont pensé que c'était un peu du style. Mais en fait, ma planche était totalement en train de glisser. Et du coup, j'ai eu peut-être 70 personnes en train d'applaudir en pensant que c'était fait exprès, quoi. En fait, j'étais juste en train de gérer mon équilibre.
Je sais pas si tu aurais autant applaudi si tu t'étais pris une des vitrines à cette vitesse-là.
Mais ouais, il y a plein de passages comme ça, c'est drôle.
Est-ce que tu le transmets, ce genre de choses, ou pas? Est-ce que t'as un fan club?
J'essaie, là, par exemple, là, avec notre communication. Mais par rapport à la télé, là j'essaie de faire un. D'ici quelques temps, j'aimerais bien faire un livre, partager mes photos et puis mon expérience. Ouais, j'essaie de partager. Sur Caen, on a créé un groupe avec un pote. On a ramené plein de longboarders et j'essaie de faire des randos sur Caen avec du monde. Donc je crée des randos vraiment accessibles même pour un débutant.
Et rando skateboard du coup.
Ouais. Alors, des fois, les gens ils pensent pas que c'est possible de faire 50 km. Alors des fois ils sont pas prévenus. Puis au fin de la journée, ils se retrouvent à avoir fait 50 km et ils font voilà, je pensais même pas que c'était faisable quoi. Donc c'est bien, ils ont le smile et puis ils ont partagé un repas et une bière sur la route quoi.
Ah, parce que du coup, tu portes tes bières et ton repas et tout, comme tu
fais
toi.
On fait pique-nique sur la route.
Génial.
C'est convivial.
Mais c'est organisé avec, je sais pas moi, une voiture balai qui ramène ceux qui sont fatigués ou...
Non, mais après, ça, c'est déjà arrivé que on ait eu des personnes qui débutaient et ça finissait, on l'a poussé sur les 20 km derniers, les 20 km restants.
Et puis... Et pousser quelqu'un sur 20 km alors que tu dois pousser ta propre board, ça doit être quelque chose.
Ouais, mais ça se fait. Pour les personnes qui ont l'expérience, ça se fait.
Puis c'est vrai que les planches, elles roulent quand même très très bien. J'ai un super souvenir de... Ok.
Le matériel, il y a pas mal d'inertie. Maintenant, on a des roues spécialement faites pour la longue distance. Donc ouais, c'est bon.
Comment on fait pour te suivre, Romain? C'est quoi les... T'as fait un film peut-être ou t'as les réseaux sociaux? Bien sûr, faut qu'on en parle. Mais
des vidéos sur YouTube, sur Globe Skater. J'ai le Globe Skater Instagram et puis Facebook. Et puis j'ai mon site internet globeskater.com.
Globe Skater, ok.
En un seul mot, parce qu'il y a plein de personnes qui le mettent en deux mots.
En deux mots, ouais. Ok, en un seul mot. Entendu. Bon, et alors, peut-être petite question pour comprendre un peu aussi, un peu philo, si tu devais rencontrer Romain qui a 17 ans, qui n'a pas encore commencé tous ses voyages, qu'est-ce que tu lui dis ?
Fais-en plus. Fais-en plus, commence. J'ai fait des premiers voyages où j'ai dépensé trop d'argent. J'ai une mère qui m'avait mis des sous de côté. Pendant mon apprentissage, et j'ai tout dépensé le premier voyage, quoi. Alors que j'aurais pu acheter des trucs qui m'auraient vraiment facilité la vie pour les voyages d'après. J'aurais pu faire une plus longue distance dès le premier voyage. Mais bon, on apprend de ses erreurs. Et puis,
ouais, puis on grandit aussi, hein. Je pense que t'as pas la même vision du voyage aujourd'hui qu'à 18 ans.
On est un peu moins con en voyageant.
C'est sûr que ça, pour le coup, ça, je pense que je partage carrément ton point de vue. T'as vraiment ce côté mûrissement, assagissement, toi, de la chose. En tout cas, t'en rentres vachement grandi, quoi.
Ouais, puis on se rend compte de certaines choses, du bonheur qu'on a en France. Des fois qu'on pense même pas le bonheur qu'on peut avoir, quoi. Des choses toutes simples, genre la sécurité sociale, ou... dans certains pays qui n'existent même pas et ils comprennent même pas le système. Même l'éducation, l'accès au voyage par exemple. Donc, ouais.
Bon, bah écoute, merci Romain pour cette très bel échange et ce beau partage. Merci. J'en ai eu plein les yeux. C'est quoi les prochaines étapes du coup pour toi? C'est quoi les prochains voyages?
Bah là, j'étais en train de parler avec mes collègues des vacances cette semaine. Donc là, j'ai encore 4 semaines à prendre. Donc, je vais prendre une semaine avec un pote. Et j'ai un autre pote avec qui je parlais faire un week-end. En fait, il y a une piste cyclable qui traverse l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Et on aimerait bien faire ça en 2 jours, faire 5 pays en 2 jours.
Ah mais génial.
J'ai mis des trucs à la con, puis il y a un autre truc qui me trotte dans la tête, mais pour l'instant je peux rien dire. C'est pour un truc hallucinant, c'est juste qu'il faut avoir l'autorisation pour le faire.
D'accord. Donc entre ça et Lac Baïkal, on s'attend.
Ouais, je crois que plus ça va aller, plus j'ai envie de faire des trucs à la con. Je m'assagis, mais je deviens plus con.
Bah, de toute façon, on va vite voir et on va vite pouvoir suivre sur les réseaux.
Mais ouais, j'ai envie de prendre des risques. Je pense que les risques, ça permet de voir, de se rendre compte qu'on est vivant, quoi.
Merci encore Romain pour ce super temps. On te souhaite bon courage pour tes autorisations et ces futurs projets. Et on ira très vite guetter les prochaines photos.
S'il y a quelqu'un qui écoute parmi vous, si vous pouvez m'aider pour le prochain voyage au lac Baïkal, genre en vêtements, c'est surtout en vêtements et puis en préparation, je suis preneur.
Comment on te contacte dans ce cas-là?
Le Facebook, c'est là où je suis le plus réactif. Parce que par mail, je réponds souvent 10 jours après.
Entendu. Merci Romain, à bientôt.
Merci.
Ciao. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.